si gamma essaie de, par exemple, son jeu de rendez-vous, c'est un petit
Alice a voulu passer par la porte, mais elle était bien trop grande.
Elle était bien trop grande.
Elle a pleuré de telle sorte que ses larmes ont noyé Wonderland.
Alice,
mais qu'est-ce?
Dans le cadre de la première édition du festival Audace, organisé par l'association Kessis en collaboration avec le service culturel de l'Université d'Artois d'Arras, la compagnie parisienne Les Xylophages ont réinventé de manière originale pour deux représentations Alice au Pays des Merveilles, par le biais d'un spectacle décalé qui a remporté un énorme succès auprès du public arageois. Une réécriture dynamique et très visuelle fondée sur des improvisations et bien sûr sur une réexploration de l'absurde, charismatique et désopilante à souhait. On a rencontré les comédiens et la metteuse en scène musicienne pour en savoir plus sur la conception de cette œuvre.
Bonjour. Vous parlez, j'aime beaucoup le Hauts de France, l'Andouillade, Cardarat. Bonjour, si, ma che possiamo fare? Allora, non so, Alice Ibnida.
Lily Aimonino, comédienne dans la compagnie des Xylophages.
Thomas Claret, je suis également comédien et trésorier de la compagnie.
Mais qu'est-ce qui se passe ici?
On était parti planter des choux, et quand on est revenu, un monstre s'est infiltré dans notre maison.
Il va manger toute la choupe.
Non, les monstres ça n'existe pas, il n'y a que des espèces en voie de disparition.
Oh, mais si, regardez de l'autre côté.
Rénal, comédienne également pour la compagnie des Xylophages.
Ariane Isartel, metteur en scène de la compagnie des Xylophages et comédienne occasionnellement, mais surtout musicienne.
Oui, avec des carottes, oui, avec des carottes et beaucoup de beurre. Oh, ça va être très bien. Allez me chercher des baies sauvages, vous, et des baies apprivoisées, vous. Oh, ça va être très bien.
Alors, avec les collègues de la main, on s'est réunis, et je vous le dis comme je le pense, récurer les oreilles, pour moi, c'est non. Moi, je suis le petit doigt de Mademoiselle Alice. Et si, je vous le dis, alors voilà, moi, je fais pas ça, parce que moi, je fais la grève, et je suis pas d'accord avec ça, c'est tout. Moi, je sers à rien.
Qu'on leur coupe la tête.
Pierrot Dussaillant, comédien de la compagnie des Xylophages.
Et je suis Benjamin Bertocchi, et je suis comédien à la compagnie des Xylophages.
C'est à cause du 5 et du 2 de cœur. Moi, j'ai rien fait, je suis le 7 de cœur, j'ai bien tout peindu en fraise des bois.
Mais comment tu te permets? Non mais, 5, tu te rends compte de ce qu'elle a fait?
Bah oui, c'est scandaleux. Moi, je suis pas une carte interchangeable comme ça. Moi, je suis 5 et je reste 5.
Vous savez pas bosser, non mais... Parce que moi, en général, en dessous de 6, les gars, je prends pas.
Dans votre sulfureux roman Les Dessous des Cartes, vous évoquez une altercation entre la reine de cœur et une mystérieuse Alicia. Pouvez-vous nous le redire devant cette assemblée en plénière?
Oui, absolument. Cette Alicia qui est entrée dans le jeu ce jour-là, elle a ravi mon cœur.
Cessons cette mascarade.
Ah mais pardon, je vous avais pas vu, mais je vous reconnais, hein. Vous êtes un ver à soie.
Une chenille.
Oh pardon.
Thank you.
venez de présenter donc Alice, il y a eu deux représentations si je ne me trompe pas, donc là c'était la dernière à la chapelle du conservatoire, qui revisite un petit peu Alice au Pays des Merveilles, mais ça va un peu plus loin, donc je m'adresse à la metteuse en scène d'abord, hein, pour savoir un petit peu comment vous avez travaillé justement cette mise en scène.
En fait c'est parti donc, du texte original de Lewis Carroll, qu'on a tous retravaillant en improvisation, on a essayé de trouver des façons de raconter les épisodes d'Alice, notamment tous les épisodes qu'on connaît, quand elle grandit, quand elle rapetisse, comment on traduit ça théâtralement, quelles images on trouve, et on a vraiment essayé de partir d'un imaginaire d'enfant, c'est-à-dire comme si on était des enfants qui jouaient avec une malle déguisement, on prend un accessoire et on est le personnage vraiment complètement, donc on travaille avec une scénographie en carton qu'on a construite nous-mêmes, voilà, et qui évoque un peu voilà, cet univers du jeu d'enfant où on peut être tout avec rien, avec juste un accessoire.
Il y a un travail de réécriture quand même sur la mise en scène. C'est pas évident quand même, un tel roman, il a été revisité plein de fois.
Oui, et du coup on a voulu vraiment mettre notre patte à nous, c'est-à-dire essayer de trouver, donc on en parlait avec Lily tout à l'heure, trouver une traduction moderne et surtout française, ça vient de nous, de l'humour de Lewis Carroll et de la langue de Lewis Carroll qui est très particulière, l'absurdité du langage. Donc nous on a beaucoup travaillé sur la langue, comment on prend la langue au premier degré, au pied de la lettre, comment on prend certaines expressions au pied de la lettre, comment on joue sur la littéralité, comment on tourne des jeux de mots, des expressions qu'on connaît pour en faire des vraies actions, enfin voilà, des vraies émotions. Et donc on s'est inspiré de nos références qui nous semblent les plus proches de celles de Lewis Carroll, mais du côté français. Donc par exemple Chabat, par exemple, bon là du coup c'est pas français, mais les Monty Python, ou alors quoi d'autre, le Camoulox.
Prévert du coup tu disais.
Prévert, voilà c'est ça, des choses qui nous paraissaient faire un écho au style de Lewis Carroll et à l'humour de Lewis Carroll, mais qui nous appartiennent un peu plus, qu'on puisse maîtriser un peu plus.
Ce n'est pas une adaptation du texte original, c'est vraiment un travail de réécriture, où on a essayé effectivement de comme c'est tout est intraduisible, les jeux de mots tels quels, etc., comment nous, on peut produire le même effet chez le spectateur, c'est-à-dire voilà, cette espèce d'attention perpétuelle à cette folie, cette malice qu'il y a dans l'écriture de Lewis Carroll. Voilà.
Pour revenir sur ces deux représentations qui ont lieu sur le festival Audace, et peut-être par rapport aussi à d'autres représentations que vous avez déjà données de ce spectacle ailleurs, vous avez travaillé sur ces deux représentations de manière différente. C'est pas évident, il y a une part d'improvisation, j'imagine, pour pouvoir recontextualiser un petit peu la mise en scène, enfin la scénographie toujours.
On prépare rarement, particulièrement pour le lieu, c'est des choses qui viennent avec le lieu, avec les gens qui réagissent, qui nous donnent parfois des interactions, qui citent leur endroit parce que c'est ce qui leur parle. Mais on l'a retravaillé, c'est vrai, on s'est jamais posé la question de comment on va l'adapter à une géolocalisation, par contre, à un espace à chaque fois. Et souvent on essaye d'avoir des choses stables, donc c'est par exemple toujours en quadrifrontal pour que le public soit réparti et que du coup quasiment tout le monde est au premier rang et quasiment tout le monde est à un mètre des spectateurs, des acteurs, comédiens pendant toute la représentation. Et par contre on a beaucoup évolué sur le texte, on l'a réécrit, mais du coup c'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr de nous, qu'on se l'approprie et qu'à chaque fois qu'on a joué, non seulement il évolue parce qu'il y a une interaction avec le public, mais il évolue parce que nous-mêmes on s'est remis en question. C'est la 22e représentation cet après-midi, il n'y en a pas deux qui se ressemblent tant que ça, alors qu'il y a des choses qui sont mot pour mot les mêmes depuis 2 ans.
Non, et puis aussi je voulais dire, c'était pas spécifiquement lié au lieu d'Arras, mais on a perdu des comédiens, et du coup là on joue une Alice qu'on appelle l'Alice à 6, l'Alice à 6 à Arras, une jolie allitération en S, et voilà, donc il a fallu réapprendre à occuper l'espace avec 6 corps, et on pratique un théâtre qui est très corporel, très collectif, et du coup voilà, on est très présent avec ce chiffre qui a diminué, mais je crois qu'on donne encore plus de présence tous.
Plus spécifiquement sur les lieux, sur les deux types de représentations qu'on peut faire, on a un peu 2 versions du spectacle, enfin 3 en fait si on peut dire. On a une version en salle, donc en salle de théâtre où on a toute la technique qu'il faut, les projecteurs, etc. Donc là où il y a une écriture aussi de lumière avec un plan de feu, etc. Toujours en quadrifrontal. On joue au centre et le public est réparti sur 4 côtés, et nous en plus on travaille en immersion sonore, donc on est aussi autour du public derrière lui pour faire des bruitages, des immersions, pour chanter. Et donc voilà, on a un peu 3 versions, une version en salle donc classique, c'est-à-dire avec les lumières, une version en salle sans lumière comme cet après-midi à la chapelle, donc c'est-à-dire sans technique où tout le public nous voit, etc. Et donc là on joue beaucoup aussi avec les types de lieux qu'on a. Donc là la chapelle c'était drôle parce qu'on avait un sol un peu en damier qui rappelait un peu un échiquier, voilà, qui était un peu aussi dans nos couleurs finalement, noir et rouge d'Alice. Et on peut aussi jouer en extérieur, on l'a fait en tournée sur des places de village, dans un champ, voilà, dans des espaces qui ne sont pas théâtraux et qui sont même plutôt proches de l'art de la rue ou du tréteau.
Puis aussi, quelque chose dont on n'a pas peut-être beaucoup parlé tout à l'heure, mais c'est que la création déjà d'Alice, c'était aussi beaucoup faite sur l'amusement. On s'amusait beaucoup aussi dans cette création à chercher sur le plateau. Et en fait, le fait de changer à chaque fois d'espace, et ben ça aussi, ça attise notre curiosité et on est très curieux. Et donc à chaque fois, ça nous amuse aussi de trouver ce qu'on peut faire avec ce lieu-là en particulier. Et donc oui, on prépare peut-être pas très très en amont cette salle, parce qu'en fait, on l'a pas en amont. Mais quand on arrive dans la salle, ben on aime bien être là et justement chercher ce qui se passe dans cette salle-là avec cette proximité plus ou moins grande. Ça dépend de la scène, voilà, de l'espace qu'on a, et on s'amuse, quoi.
Oui, on s'amuse beaucoup. Il faut savoir qu'une répétition de Xylophage, c'est 75% de blagues et 25% de travail.
Alice, qu'es-tu venue faire dans ce sacré monde à l'envers ? Alice, marche arrière, il est temps. Ce pays n'est pas pour les petits enfants. En errant dans la mer de ses pleurs salés, Alice a trouvé le rivage. Et c'est là que rassembler, tremper, transverser tous les animaux à peine. Oh Alice, reprends-toi. Avec ces gens-là, on ne peut pas tricher. Ils ne te laisseront pas filer, crois-moi. Avant d'avoir pris la place sur l'échiquier.
Quand vous arrivez dans ce lieu, notamment c'est la chapelle du conservatoire, qu'est-ce qui vous attire le plus vite ? Enfin, qu'est-ce que vous regardez en premier ou entendez ? Est-ce que c'est l'espace d'abord ou l'acoustique ?
Je crois qu'on a ce petit rituel dès qu'on arrive dans un nouveau lieu de disposer les chaises et de visualiser au sol quel va être notre carré de jeu. Parce que c'est important pour nous, pour les sorties, les entrées, l'orientation aussi. On a ce petit jeu entre nous qui ne veut absolument rien dire pour le régisseur de la salle en général, qui est à tel endroit, c'est la régie. C'est une régie fictive qui correspond à la régie de la création, de la salle de la création. Donc en général, le régisseur fait « non, je suis là ». Et on s'oriente, selon régie et une autre régie d'une autre salle qui nous a marqué, donc c'est régie Ali, voilà, donc on a une régie Ali fictive, donc c'est en général la première chose qu'on fait, ensuite voilà, on teste l'acoustique, on voit comment ça résonne, comment on va se faire entendre, comment quand on chante, qu'est-ce que ça sonne, voilà. Mais c'est d'abord l'espace au sol.
Et ça fait partie des choses qui, quelle que soit la salle, on va négocier. Donc, par exemple, dans tous les cas, on va devoir gérer notre voix, le volume, le public, où est-ce qu'on l'installe, nos passages. Mais il y a des choses où c'est nous qui nous adaptons à la salle. Donc, par exemple, quand on arrive à la chapelle, où là, le travail était fait en amont par Ariane qui est venue visiter la chapelle, mais on regarde ce qu'on peut fermer ou non, parce qu'on a des scènes qui vont être différentes selon l'éclairage qui est disponible. Là, il y a des grandes baies vitrées sur les côtés, c'est impossible de manipuler la lumière, il n'y a aucun éclairage. Donc, on se dit, eh bien, telle scène va être jouée dans telle façon, parce que ça, c'est des choses qu'on ne peut pas modifier. Il y a aussi comment est-ce qu'on est à vue des spectateurs ou comment est-ce qu'on est caché. Donc, nos entrées, comment on peut se dissimuler et disparaître, comment on peut faire un on et un off, et comment est-ce qu'on peut occulter la lumière ou non, c'est des choses où c'est nous qui nous adaptons à la salle, mais comme on l'a déjà fait, du coup ça fait les versions par exemple dont Ariane parlait, qui correspondent à ça.
Si on parle un peu des personnages d'Alice, hein, puisqu'elle est multiple, vous, tour à tour évidemment, vous changez aussi, vous adaptez les tableaux en fonction de vos personnages et des personnages qui y figurent. Alice change pas mal de fois de personnes. Est-ce que c'est un choix, ou est-ce que c'est parce que vous n'êtes que 6, ou est-ce qu'elle était fixée au départ à une seule personne ?
En fait non, ça vient du processus de création. En fait, en improvisation, au départ, on changeait tout le temps d'Alice, c'est-à-dire qu'on n'avait pas désigné un casting en disant c'est toi qui feras Alice pendant tout le spectacle. Au contraire, ça nous amusait que tout le monde y mette son grain de sel, que tout le monde dise moi je vois Alice plutôt comme ça. Et du coup, on a essayé d'éviter de faire d'Alice un personnage enfantin qui parle toujours une petite fille. Et comme en fait la compagnie était, là on est en parité parfaite, mais au départ il y avait plus de garçons. Et donc du coup, ça nous faisait rire aussi que Alice ait plusieurs tailles, plusieurs voix, et que ça correspond aussi à dans Lewis Carroll. Alice passe son temps à grandir, rapetisser, elle se souvient plus de comment elle s'appelle, elle perd son identité au fur et à mesure. Et donc pour nous, ça nous semblait faire sens que le personnage circule entre nous, parce qu'on questionnait aussi sa perte d'identité progressive dans le pays des merveilles, où elle sait plus très bien pourquoi elle est là, comment elle s'appelle, quelle taille elle fait, d'où elle vient. Et voilà, on voulait partager ça et aussi avoir plusieurs visions d'Alice qui soient chacune un bout de nous, quoi. Et aussi un bout de nous qui corresponde à l'écriture. C'est comme on a écrit en écriture collective en petits groupes, chacun avait un peu sa version d'Alice et on a voulu garder ça. On n'a pas voulu le lisser, quoi. On a voulu avoir des Alices un peu personnelles pour chacun avec nos petites. D'idées.
Je crois que c'est lié aussi à la grande bienveillance et l'amitié qu'on a entre nous. Et finalement, on avait aussi scrupule finalement à privilégier une Alice. C'est-à-dire que tout, elle nous plaisait. Tout, on disait, ah bah, quand c'est Pierrot, elle est comme ça, c'est trop drôle, machin. Mais en même temps, pourquoi se priver de l'avoir joué par Hortense ou par Benjamin? Et puis, enfin, il y avait ce truc-là de pourquoi mettre une personne en avant alors qu'en fait, on avait tous envie d'être tout le temps ensemble et de pouvoir aussi voilà, se passer les rôles, se moquer, mais se parodier les uns les autres, enfin voilà, avoir un rapport. Bah de jeu, quoi, justement, à la fois avec les personnages et entre nous, quoi.
Et en fait, au fil des deux années, peut-être que nous, comme on repense aux origines, ça nous choque peut-être moins quand on nous pose la question là, on pense à ça, mais c'est devenu une part essentielle du spectacle, le fait que Alice soit jouée par tout le monde. Et c'est devenu un des éléments sur lequel se base le fil conducteur de l'histoire que nous n'avions pas initialement. C'est que maintenant, une partie de l'histoire, c'est qu'on raconte cette histoire d'Alice au pied des merveilles qui, quand on se penche dessus, est assez horrible. Et on se pose la question de est-ce que c'est pas un peu horrible d'interpréter Alice et de se prendre toutes les mauvaises choses qui arrivent. Et donc de là, beaucoup de nos transitions ont changé. Et donc c'est devenu cette chose où finalement, voilà, on partage la souffrance d'Alice chacun.
Et je crois qu'il y a aussi, Ariane, tu parlais d'une question d'identité. Et si on revient au théâtre, il y a aussi une question d'identification. Tout le monde peut s'identifier à Alice, alors qu'il est vrai qu'Alice au Pays des Merveilles, donc déjà une héroïne, on pourrait dire bon bah c'est pour les petites filles, non voilà c'est aussi pour les petits garçons, du coup les grands garçons, les grandes filles, enfin les êtres humains quoi, tout simplement. Alice a différents corps, elle a un cas d'identité et chaque spectateur ou spectatrice peut s'identifier en fait, quel que soit son genre.
Il y a même du théâtre dans le théâtre, parce qu'à un moment donné, vous sortez un petit peu pour dire bah, toi, tu l'as pas encore fait, vas-y, il faut que tu l'apprennes. Donc, ça, c'est plutôt aussi intéressant. Et ça, je pense pas que le public s'y attende forcément. Le rapport avec le public, justement, parce qu'il y a il y a une part d'improvisation et du théâtre d'impro, puisque le dernier tableau, là, vous vous adressez directement au public pour que ce soit lui qui décide de l'histoire. En l'occurrence, là, c'était la chaussure peureuse à Arras avec une histoire de beffroi. Comment inventer l'histoire? Alors, et ça, faut m'expliquer un peu.
Alors, je vais prendre la parole, ce qui est complètement indigne vu que c'est moi qui prends la parole déjà pour l'histoire, mais c'est un travail commun. Et ce qui est très impressionnant, c'est en fait on faisait un exercice pendant les improvisations d'Alice les personnes donnent à un des comédiens des mots et il doit se débrouiller pour raconter une histoire avec ça. Et pendant ce temps, tous les autres font un accompagnement musical. Et c'est un exercice qui nous a beaucoup plu et que Ariane a insisté pour qu'on garde dans la création. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on demande au public qui, à chaque fois, depuis 2 ans, nous demande si on avait des complices. Et non, les petites filles de 5 ans à qui on demande et qui nous disent « une chaussure » ne sont pas des complices. C'était improvisé. Et pendant ce temps, les 4 autres plus Alice au centre font un accompagnement musical qui doit être adapté. Donc c'est un truc horrible où on doit s'écouter tous et voilà, et donc on se débrouille.
Mais du coup, moi, Pierrot, j'ai une question que je t'ai jamais posée. Est-ce que notre accompagnement dirigé par Lily te donne des idées parfois?
Oui, ça arrive, mais en fait, ça aide beaucoup parce que ça crée des ambiances et c'est vrai que ça va à 100 à l'heure. Donc, il y a en ce moment, donc c'est maintenant, désormais, c'est Thomas qui me donne la réplique en Alice. Et c'est un rôle génial parce que Thomas joue Alice qui pose des questions sur une histoire que je raconte comme si je la connaissais. Mais comme je connais pas cette histoire que je raconte, il me pose des questions qui me dirigent, qui m'aident. Il me dit « Ah ouais, mais pourquoi c'était comme ça ?» Et moi, je me dis « Mais c'est vrai, pourquoi est-ce que mon histoire est comme ça ?» Et pendant ce temps, il y a du coup Lily, Benjamin, Ariane, Hortense qui font des « Ah ouh !» qui me mettent dans une ambiance tribale et d'un seul coup, on est dans un autre endroit. Enfin,
mais je crois que c'est aussi un rapport avec la scène du thé où Alice, Lily joue avec les personnages en s'inventant des petites histoires, en faisant bouger ses poupées. Et ben là, c'est pareil, c'est comme font les enfants en fait. Alors là, on dirait qu'il y avait un chevalier et puis du coup, il monte la montagne et en fait, ils connaissent pas l'histoire, mais ils la connaissent en fait dans leur tête. Tout est là, le fil narrateur. Les enfants sont des petits auteurs en fait. Et Pierrot, toi, t'es un petit enfant auteur qui connaît pas l'histoire, qui fait comme un enfant, voilà, mais qui la connaît en fait. C'est ton histoire, c'est la nôtre.
Vous resterez bien à dîner.
avec nous.
Merci, mais je sors de table.
N'en sortez qu'une et remets ton couvert.
Oh, ben voilà une table bien dressée.
Vous n'avez rien vu. Assis. Venez, je vais vous faire mijoter et je vais vous raconter une histoire.
Ah, une histoire, chouette, j'adore les histoires, mais quelle histoire?
Oh, peu importe l'histoire, n'importe quelle histoire.
N'importe quelle histoire, c'est pas une histoire. Il faut choisir un sujet de l'histoire.
Eh bien, c'était l'histoire de donnez-moi un objet, n'importe quoi. L'histoire d'une chaussure.
L'histoire de la chaussure, c'est tellement banal, cette tortue. Des chaussures, il y en a des milliers. Quelle chaussure, pas plus précis dans votre histoire.
Je sais pas,
J'attends, triste tortue.
C'était la chaussure peureuse.
La chaussure, l'histoire de la chaussure peureuse. Oui. Non, soyez plus précis dans vos histoires, triste tortue. Par exemple, elle était où cette.
Mais je ne sais pas, elle était où cette chaussure peureuse.
Arras.
Elle était à Arras, voilà, c'est l'histoire de la chaussure peureuse à Arras.
Vous vous rendez bien compte.
Oui, c'est très bien, c'est l'histoire de la chaussure peureuse à Arras. Pas tout mon temps, vous pouvez quand même terminer cette question. Alors, la chaussure peureuse. N'avait pas toujours été heureuse, vous savez.
Ouais.
Non, pas, non, je sais pas. Au début, on la connaissait sous d'autres noms, mais certainement pas peureuse. C'était une chaussure vaillante.
Ouais.
C'était une chaussure plutôt bien faite, une chaussure saillante. C'était une chaussure comme on rêve en avoir. Vous savez, quand j'étais petit, ma sœur mettait des chaussures qui courent vite. Car elle pensait que ça l'aidait. Et finalement, ça l'aidait, car munie de ses chaussures, elle courait plus vite, car persuadée que.
Les chaussures couraient à ta place.
Exactement.
Ouais, j'ai bien compris.
Et ça, j'ai réussi à le placer. C'est beau. Elle pensait que les chaussures l'aidaient à courir. Et ça l'aidait à courir. Ces chaussures-là donnaient du courage. Oui. Car finalement, pourquoi mettre des chaussures particulières? L'essentiel, c'est que les chaussures que je porte me protègent les pieds. N'est-ce pas?
Tout à fait.
Du coup, mes pieds vont bien. Mais ces chaussures-là n'avaient pas cette fonction-là. Car les gens pensaient que les chaussures devaient avoir d'autres fonctions. Des fonctions olfactives, par exemple. Ou des fonctions digestives, ou des fonctions dégustatives. En l'occurrence, c'était des fonctions dégustatives. Il fallait que ce soit beau à voir.
Ah, je comprends maintenant.
Et oui, car une fois qu'on pense que les chaussures sont belles à voir, on sait que le regard des gens n'est plus sur notre visage. On n'a plus tous ces complexes, car du moment qu'ils regardent nos pieds, c'est eux qui ont l'air d'avoir peur. Vous connaissez bien les oies?
Les oies sauvages?
Oui, les oies sauvages. Si vous avancez vers elles, elles pensent que vous savez que vous êtes plus fort qu'elles, donc elles reculent. Si vous reculez, elles pensent que vous savez qu'elles sont plus fortes que vous, donc elles avancent et vous avancent. Très bien. Eh bien, c'est la même chose avec toutes les espèces. Si vous avancez vers elles, vous pensez que vous êtes plus fort, elles vous croient. S'ils baissent les yeux, vous pensez que vous êtes plus fort, vous êtes plus courageux. Et donc, des chaussures qui attirent le regard, ça donne du courage. Ça enlève le trac. Eh bien,
ça comprend.
Ces chaussures-là donnaient beaucoup. Mais du coup, à chaque fois qu'on leur donnait quelque chose, elles étaient regardées de haut, et oui, car les personnes qui regardaient les chaussures étaient au-dessus des chaussures. Et donc la personne se sentait courageuse, mais à chaque fois que la personne se sentait plus courageuse, la chaussure
se sentait peureuse.
Exactement. C'était terrifiant, être regardé de haut à longueur de journée, et surtout attirer le regard. La chaussure, tu trouvais un stratagème. Elle ourdit longtemps. Elle ourdit très longtemps. Comment faire pour ne plus inspirer les froids et ne plus avoir peur? Car effectivement, elle ne donnait pas froid. Quand on porte des chaussures, ça va. Elle trouve un endroit. Un endroit magnifique. Un endroit où personne ne regarde ses pieds. Car ce qu'il y a en haut est plus beau.
Mais quel est donc cet endroit, triste tortue?
Je vous le demande. Un endroit où il n'y a pas juste un clocher qu'on regarde, et puis on regarde par terre. Un endroit où, une fois qu'on a vu un premier clocher, on sait qu'il y a aussi un beffroi.
Ah, c'est Arras.
Et oui. Arrivé à Arras, la chaussure heureuse comprit que les gens ici connaissaient les vraies valeurs des choses et ne regardaient pas leurs pieds ou les choses aussi futiles. Ils savaient que les façades des maisons étaient si belles qu'elles étaient toujours écrasées par leur beauté. Du coup, les façades qui prenaient les gens de haut, elles, étaient pleines d'entrain et de courage, mais on ne leur demandait pas leur avis. Les façades étaient pleines d'effroi, elles, pour le beffroi qui était encore nu, et le beffroi, lui, regardait le clocher. Ils étaient au même niveau et ils se dévisageaient des siècles et des siècles. Des siècles et des siècles, et puis le beffroi dit « Amen, ta fraise, hein, on en discute. »
C'est un
beffroi
qui
a eu
le courage, ça.
Eh oui, le clocher dit... Mais c'est une autre histoire. Je ne vais pas me lancer là-dedans, nous étions sur les chaussures. Les chaussures peureuses arrivées à Arras avaient vu qu'il y avait tant de beauté vers le haut que les gens ne regardaient plus vers le bas. Et elles se sont gonflées de courage. Et finalement, c'est en portant des monuments qu'elles-mêmes retrouvaient toute sa force d'antan. Ainsi finit l'histoire de la chaussure.
Peut-être que c'était fait exprès, mais il y a l'épisode du tabouret, à un moment donné, ce qui se casse la figure, c'était prévu ou c'était pas prévu? Du coup, quand il y a des choses comme ça qui dérapent presque, on va dire ça dérape pas vraiment, comment on fait pour rebondir?
Justement, vous avez parlé de tout à l'heure de ces moments off, par exemple, où tout à coup on dit non, moi j'ai déjà fait, fais-le comme ça. Et en fait, ça fait partie aussi du spectacle, enfin des codes de ce spectacle-là, donc ça nous permet vraiment de rebondir assez facilement parce qu'on n'a pas de gêne à se dire là, enfin de toute façon même pendant toute la pièce quand on joue pas on est sur le côté et en fait on se prépare aussi pour les autres, enfin les changements sont à vue quoi, donc ça fait partie des codes tous ces changements à vue et du coup on peut rebondir là-dessus déjà comme ça parce que c'est pas figé et puis c'est aussi le fait que le spectacle change tout le temps et du coup il y a un truc, il y a une liberté quoi qui fait ce qui passe par cet amusement. Quoi. Comme on s'amuse, on peut se permettre d'inventer à partir de choses qui, voilà, qui est d'accidents, qui arrivent, de choses qui sont pas prévues.
Que ce soit d'une part l'improvisation à laquelle on s'est vraiment, enfin, on a été rompu à la pratique quand on a travaillé sur ce spectacle-là, et d'autre part le fait qu'il y ait eu 20 versions différentes. Ça nous a donné une capacité à rebondir sur tout. Voilà, vous avez compris que c'était pas fait exprès, mais il y a eu pas mal de choses cet après-midi qui n'étaient pas faites exprès et qui en fait sont acceptées comme telles par le public parce que nous, on se connaît très bien déjà entre nous, on connaît quasiment le texte de tout le monde, surtout Pierrot. Et donc voilà, on a une capacité à accepter, à intégrer tous les éléments qui ne sont pas prévus et dont le public fait partie également, les réactions du public, comment on les intègre. Des fois, il y a des parents qui sont là, chut, leurs enfants. Au contraire, nous, on adore. Il y a eu vendredi une scène très mignonne avec... le moment où donc la partie de croquet doit se dérouler et donc il n'y a pas d'adversaire comme prévu. Et Ariane qui joue Alice à ce moment-là fait 6 mois. Et donc il y a un petit enfant qui était vraiment terrorisé parce qu'il a bien compris que la reine était une psychopathe. Il a fait genre oh, non. Et donc tout le monde a ri et même nous. Et en fait on s'est dit mais c'est un bonheur de même de se laisser aller à rire etc. Et de jouer là-dessus sur tout ce qui n'est pas écrit juste pour un spectacle qui est en partie écrit, mais pas totalement. Donc c'est ça qui est un bonheur aussi pour nous, quoi, en tant qu'interprète.
Alors, de toute façon, on sent hein, que vous vous amusez beaucoup, et le public, quand on l'observe, aussi. Mais est-ce que vous, par défi entre vous, peut-être, puisque vous vous amusez tout le temps, est-ce que vous mettez des pièges aussi, de temps en temps? Est-ce que vous êtes-vous piégé entre vous?
Ça a pu arriver. On n'en fait pas une règle. On n'en fait pas une règle parce que on a, c'est stressant, on a quand même un spectacle à montrer et qui doit se dérouler dans les meilleures conditions et pour le public aussi. Mais dans certaines occasions, notamment les dernières de certains comédiens, on a pu glisser deux trois pièges. Que je tairai. Mais oui. Après, c'est pas. On évite tout ce qui est blague entre nous pendant le spectacle, ou même très, très, très. Voilà, ce qui est déjà beaucoup, de gros pièges, etc., pour pas se mettre non plus en danger. On se challenge évidemment les uns les autres, mais on travaille suffisamment en confiance pour ne pas avoir là, cette peur de se dire « Ah là là, on m'a piégé et comment je dois réagir ?» parce qu'on n'est jamais sûr de comment le piège va tourner.
Par contre, ce n'est pas un piège, mais
c'est pas des pièges, mais comme c'est un spectacle où il y a beaucoup de jeux de mots, on essaye aussi un peu tout le temps de trouver des nouveaux jeux de mots. Et là, les autres ne sont pas forcément prévenus. Enfin, c'est dans des moments où on peut se permettre d'improviser. Donc, ça ne devient pas un piège. Mais par contre, ça peut vous donner envie à l'autre de rire. Mais ça, justement, c'est entre nous. Ça nous amuse aussi. Ça amuse le public. Et c'est d'abord pour le public aussi, ces jeux de mots. Mais du coup, on découvre aussi des choses et on fait c'est des surprises plutôt.
Et la fin est presque un peu ouverte, hein, puisqu'il y a deux Alice cette fois-ci. Une qui est au sol, qui va se réveiller pour retourner dans le monde réel. Et il y en a une deuxième qui est derrière une porte et qui regarde. Alors du coup, je pensais à un truc. Est-ce qu'il va y avoir peut-être une réécriture de Derrière le miroir?
Je vais commencer par dire un truc. J'ai un truc très important à dire. Alors, comme vous venez de spoiler la fin de notre spectacle à tous vos auditeurs, je propose de spoiler ici en direct la fin de Avengers Endgame.
C'est très drôle que vous disiez ça, parce qu'en fait tout à l'heure, en fait ça fait partie de tout ce qu'on disait sur l'investissement du lieu, etc., sur la façon dont on essaye à chaque fois de trouver des nouvelles blagues. Par exemple, en fait on a, pour les objets qu'on utilise, on a une table, on a des chaises et on a par exemple on a aussi un escabeau, et on n'a pas ça, enfin on les transporte pas avec nous, donc on les prend toujours sur place, on s'adapte aussi au lieu qu'on trouve. Donc là on a par exemple des mini chaises qui nous ont fait beaucoup trop rire, donc on les a utilisées pour le thé des fous. Enfin, voilà, bref. Et donc tout ça pour dire que à la fin, pareil, on cherchait des moyens de se cacher, mais d'être encore un peu visible, comme les derniers signes du Pays des Merveilles qui ne sont pas encore totalement effacés. Ça peut se doute de quand on se réveille, est-ce qu'on a vraiment rêvé ou est-ce qu'en fait c'était pas un rêve et qu'on a vraiment vécu tout ça. Et donc on cherchait comment laisser des traces. On a beaucoup aimé cette porte vitrée, le fait que la deuxième Alice, en fait, elle soit toujours là et que ce soit un peu la petite sœur maléfique de d'Alice. On sait pas trop. On s'est même dit, ah ouais, ce serait super qu'en fait, celle qui se réveille, c'est la deuxième Alice et c'est un espèce de robot bizarre. Et la vraie Alice, en fait, elle est restée prisonnière du monde des merveilles. Elle tape sur la porte en disant, libérez, c'était Hortense qui suggérait ça tout à l'heure. On aurait presque pu faire ça, etc. Bon, c'était Pierrot peut-être, je ne sais plus d'où vient les idées. C'était le collectif, mais du coup on s'est dit, ah bah voilà, en fait c'est le germe de l'Ocre du miroir. Donc c'est vraiment qu'aujourd'hui qu'on s'est posé la question, donc c'est hyper drôle que vous y ayez pensé. Ça veut dire que c'est, enfin ça fait sens quoi, ça, l'image
grâce au lieu en fait, ouais. Voilà, parce que sinon c'est pas comme ça, Ariane disparaît dans la coulisse quoi.
Oui, dans les versions en extérieur, en fait là on s'était une sorte de lien avec nos versions en extérieur, où je partais en courant quand sur les places de village, je partais et même je lui tirais la langue et là elle court, c'est une comédienne, elle porte une perruque et tout, et moi je partais en courant et je disais, ah, je t'ai bien eu. Mais là du coup ça faisait un truc un peu plus inquiétant avec cette porte vitrée qu'on a voulu essayer, et en fait c'est vrai que l'image était assez claire en fait, donc on s'est posé la question aujourd'hui, c'était pas dans nos plans, mais en fait on se pose la question, voilà.
Question bonus, donc y a eu un temps d'échange 5 à 7 là sur, alors je vais chercher mes notes parce que c'était un peu compliqué quand même la thématique, vous avez partagé ça donc hier, sur la formation, le parcours et la structuration d'une compagnie, et par quels moyens et pour quel territoire. Donc qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de cet échange?
On était très heureux surtout d'être en échange avec une super compagnie qu'on a eu beaucoup de plaisir à rencontrer, à voir jouer, à découvrir. C'est la Ville en Feu avec son super spectacle Le Sacre, autour du Sacre du Printemps, théâtre danse. C'était vraiment génial. Donc on est très content de pouvoir échanger avec eux parce que c'était un coup de foudre artistique dans la journée, et on s'est bien entendu sur des questions qui nous rassemblaient, c'est-à-dire comment une jeune compagnie on peut passer d'un statut étudiant à un statut jeune professionnel, c'est quoi la différence entre une jeune compagnie et une compagnie émergente, toutes ces questions en fait nous rassemblaient beaucoup, que penser aussi du territoire parisien par rapport à d'autres territoires qui sont plus difficiles, enfin plus faciles d'accès parce que les structures sont plus proches, alors qu'à Paris on est beaucoup et donc c'est difficile de trouver. Mais on a prolongé la discussion après, parce qu'on s'est dit qu'on avait passé 2 heures à se plaindre que la vie était dure, et qu'en fait on avait aussi envie de se dire, c'est chouette, on fait des spectacles, on fait des beaux spectacles, on a envie de les montrer, et c'est surtout ça qu'il faut trouver, c'est partager les moyens et pas se plaindre de la situation actuelle. Et donc en fait à la fin on a plutôt fini sur une note positive, en se disant que c'était super de pouvoir jouer, d'être programmé à Audace, et de pouvoir partager, rencontrer, et ensuite se suivre, et ensuite s'aider, et tout ça, et que voilà. C'était un peu le constat qu'on a fait au final avec eux.
Cinq de cœur dans votre sulfureux roman Les Dessous des Cartes. publié sous le pseudonyme Cinco del Coro, vous évoquez une altercation entre notre bien-aimée Reine de Cœur et un mystérieux personnage, la jeune Alicia.
Qui ça ?
Qui ça ?
Maintenez-vous devant cette assemblée qu'il ne s'agit pas de faits non fictifs ?
Mais finalement, votre honneur, qu'est-ce que la fiction ? Je veux dire, je pense qu'un auteur s'inspire nécessairement des faits réels qui l'entourent. Finalement,
mais
c'est
que
pas
prendrez-vous avec votre thé ?
Je prendrai mon travail très à cœur.
Vous bluffez, Cinco. Ce jour-là, vous avez toutes les cartes en main. Pourquoi ? Pourquoi avoir choisi une teinte fraise des bois ?
C'est Alicia qui est entrée dans le jeu avec tous ses atouts. Elle a ravi mon cœur.
Cessons cette mascarade !
Alors que l'aube blanchissait les roses dans la campagne. Il doit y avoir erreur sur la personne, je m'appelle Alice. Et c'est moi qui ai joué une partie de croquet contre la reine, d'ailleurs j'ai gagné. C'était le deuxième jeu de la journée.
Ah, mais on ne se refuse de rien.
Bah pour le premier, elle m'avait rien expliqué, dis donc. Et c'était quand je mesurais encore 1m41 avant de faire exploser la maison. C'est mon petit doigt qui me l'a dit.
Oh, c'était toi.
Si je puis me permettre, je jouais fort mal au croquet.
Gagner quand on ne connaît pas les règles, ça s'appelle tricher, petite larve.
Non mais oh, papillon mal fini.
Oh, mais bien évidemment.
Ah mais je vous reconnais, vous êtes le grand chamelier.
On s'en va sans aucune.
Mais si, nous avons buloté ensemble. Et d'ailleurs, je n'ai dérangé personne, allez, dites-le.
Il est l'heure du thé.
Mais chacun sait que les places qui ne sont pas prises ne sont pas à prendre.
Mais ça vous amuse? Et bien sûr, les parties ne sont pas faites pour être jouées. Et ce sont toujours les mêmes qui gagnent et les histoires ne sont pas faites pour être racontées. Et puis d'ailleurs, qui êtes-vous pour me dire quelle taille je dois faire ou qui je dois être ?
Y a plus de place. Y a plus de place. Y a plus de place. Y a plus de place.
On a dit que
y a plus de place.
On a
plus de place.
Serais-je un verre ? Mais non, je mesure 1m41.
Dansons le quadrille des homards.
Qu'on ne te reprenne pas à tricher, vilaine.
C'était pas à ton tour de jouer ?
Je ne suis pas un serpent. Je suis une petite fille.
Comment se porte votre jelly pudding ?
Qu'on ne te reprenne pas à tricher,
dansons
vilaine.
C'était pas à ton tour de jouer ?
Je mesure 1m41. Dansons. Tout le monde est fou. Je suis fou, vous êtes folle. Autant vous y habituer.
Alice,
qu'es-tu venu faire dans ce sacré monde à l'envers ?
C'était un focus sur le spectacle Alice, inspiré de l'œuvre de Lewis Carroll et proposé par la compagnie des Xylophages lors de la première édition du festival Audace, organisé par l'association Kessis, en collaboration avec le service culturel de l'Université d'Artois d'Arras.
Qu'on leur